le journal, Yevine Bouinga.
Des images pour expliquer le contenu du projet de constitution aux populations analphabètes. Ces affiches ont été présentées aux confessions religieuses ce vendredi au centre interdiocésain à Kinshasa. Retour au calme dans le territoire de Mahagui en Ituri, cela 2 jours après des accrochages entre forces gouvernementales et des hommes du chef de l'ex-FNI FRPI, Peter Karim. Des femmes, plus de 500, se retrouvaient dans les rues de Bukavu aujourd'hui. Elles exprimaient leur colère face aux violences sexuelles faites aux femmes en cette journée consacrée à cette question. Bonsoir, 9 affiches pour expliquer le contenu du projet de constitution qui sera soumis au référendum le 18 décembre prochain. Ces images ont pour but d'aider les populations analphabètes à mieux comprendre ce processus. Ce matériel pédagogique a été présenté aujourd'hui au centre interdiocésain de Kinshasa. Il a été élaboré par la coordination des activités pour la réussite de la transition selon l'Église catholique, CARTEC en sigle, et les confessions religieuses. Henri Mouhia, chargé du programme de la CARTEC, explique ces images et ses propos sont recueillis par Ramambaï. Suivez.
Nous avons choisi l'image parce qu'elle se retient mieux. Quand on voit l'image, on a une référence dans la tête. Et ensuite, il y a des personnes qui ne sont pas lettrées, qui ne peuvent ni lire ni écrire. À partir de l'image, elles peuvent comprendre le contenu du projet de constitution. Soit par exemple, quelqu'un qui est transporté en tipoy par des personnes qui sont visiblement mal à l'aise. Alors il y a les violations de droits et on a une constitution fidèle à un guide. Bon, ça montre que c'est la situation qui n'est pas voulue. Il faut passer de cela, d'une constitution fidèle à un individu, à un groupe d'individus, à une constitution qui est au-dessus de tout le monde. Il y a une affiche où tout le monde est en dessous d'un livre, la constitution. Et ensuite, on a encore une affiche où on a la carte du Congo, subdivisée en provinces. Il y a les anciennes provinces, on peut voir là, et les nouvelles provinces proposées. Et alors, on voit les éléments sur l'emblème, le drapeau, on voit la monnaie, on voit les armoiries, on voit la devise. Et on voit aussi une série, donc une multitude de personnes de différentes races qui représentent les Congolais.
Et puis, renforcement de la démocratie parlementaire dans les pays de la SADC, le sujet est en discussion dans un séminaire de 2 jours organisé à Kinshasa sous l'égide de South African Institute of International Affairs. On y retrouve les membres de différents partis politiques, des entités de la société civile représentées au Parlement. À cet effet, un rapport sur le Parlement congolais de la transition a été présenté par Claude Kabemba, expert congolais en processus électoral établi en Afrique du Sud. Dans ses recherches, Claude Kabemba affirme que le Parlement congolais connaît actuellement des graves difficultés dans sa structure et dans ses ressources, ce qui ne lui permet pas de fonctionner de manière appropriée. Claude Kabemba.
C'est un Parlement très, très symbolique. Très symbolique parce que les grandes questions ne sont pas décidées au Parlement, elles sont décidées au niveau des groupes politiques, ce qui est malheureux, c'est-à-dire que les parlementaires, bien qu'ils jouent un rôle important pendant cette transition, ils sont sous l'emprise de l'exécutif. Nous avons aussi épinglé qu'il y a une très grande faiblesse de l'intervention de la société civile au niveau du Parlement. C'est qu'on a compris que c'est une société civile qui est aussi très politisée. Nous avons aussi observé qu'il n'y a pas eu de contact entre le Parlement et le peuple congolais. Et cela a créé un problème de reconnaissance de se rapprocher du Parlement par le peuple congolais. Le peuple congolais voit le Parlement comme une institution étrangère. C'est-à-dire que ce décalage-là pose un sérieux problème de légitimité et ça peut même causer un problème de légitimité des lois qui ont été prises. Mais nous avons aussi remarqué que le Parlement congolais, malgré les difficultés et les faiblesses, a quand même fonctionné.
Réaction à présent d'un député congolais de la composante ex-gouvernement. Il pense que c'est une erreur de comparer le Parlement de la transition à ceux d'autres pays qui ont déjà une tradition parlementaire vieille de plusieurs années. Jean-Claude Kazembe du PPRD.
Nous ne sommes pas un Parlement classique. Nous sommes un Parlement qui a été conçu dans un contexte bien donné et bien précis. Et ce serait une erreur aujourd'hui de prendre notre Parlement, le comparer au Parlement sud-africain, au Parlement belge, au Parlement français ou américain. Nous venons de la guerre et notre Parlement n'avait pas pour mission d'instaurer la démocratie. Il avait pour mission de préparer le lit pour la démocratie, c'est-à-dire la stabilité du pays, ramener la paix, ramener l'unité territoriale et mettre en place place des lois susceptibles de nous conduire à la démocratie.
Il y a quand même des choses exactes sur lesquelles il revient, par exemple quand il parle des insuffisances de certains députés.
Oui, effectivement, ça ce sont des insuffisances lorsqu'on parle d'un parlement classique. Mais aujourd'hui, moi je peux dire que c'est une réussite parce que nous, qu'est-ce qu'on a voulu? L'inclusivité. On a pris tous les gens qui ont fait la guerre, ce n'étaient pas des intellectuels, ce n'étaient pas des gens intelligents, mais nous avons mis toutes ces personnes ensemble et aujourd'hui quand même, le Congo a réussi à marcher.
Reportage réalisé par Eugène Kabambi. Ituri, c'est la quiétude dans le territoire de Mahagui après les combats de mercredi entre les FRDC et les hommes de Peter Karim, chef de l'ex-FNI FRPI. L'annonce est faite par la MONUC. Les troupes des FRDC sont déployées dans le secteur. La frontière entre la RDC et l'Ouganda est fermée pour les opérations des FRDC contre les miliciens encore présents dans la région de Mahagui. Plus d'explications avec le responsable de l'information publique de la MONUC en Ituri, Moussa Demba Diallo, est au micro de Dominique Wolombi.
Nous avons reçu des informations sur des représentants de la MONUC dans la région, que la situation sécuritaire est calme et que la situation est sous contrôle. Les populations vont à leurs occupations. Effectivement, hier, il y a eu un accrochage entre des éléments armés et les forces armées congolaises. Mais concernant maintenant le mouvement des milices vers l'Ouganda ou le mouvement de ces milices vers Nyoka, nous n'avons que des rumeurs, mais qui vont être vérifiées. La MONUC va vérifier et la population qui avait fui la zone pour se réfugier à Mahagui commence à retourner et la frontière de l'Ituri avec l'Ouganda est fermée, cernée par les troupes des FARDC.
Du côté du Katanga, on signale la mort de 16 personnes dans le territoire de Bukama, groupement Upemba. Ces personnes ont été tuées depuis le mois de septembre dernier. Leurs bourreaux seraient des maïmaïs du défunt chef de guerre Kabale qui se vengeraient sur les populations civiles. Selon le frère Louis Aerden de l'ONG Développement Intégral Kanyundu, basé à Luena, ces maïmaïs sont dispersés dans les territoires de Bukama et Luena. L'ONG demande à la CONADER d'élaborer un programme pour les encadrer. Louis Aerden est au micro de Denise Maéo.
Les gens qui se déplacent de Katala vers des autres régions, on constate qu'ils seront victimes maintenant de maïmaïs qui ont pris fuite de Kilumbe. Et surtout le maïmaï de Fukabale. Et ce sont ceux qui ont pris fuite, ils ne sont pas armés, mais comme ils ont été victimes de Katala le 28 février, on avait tué 102 maïmaïs par la population. Et c'est là, cette maïmaï-là qui se venge contre le peuple de Katala, là où ils sont. Et nous avons constaté qu'à partir de septembre jusqu'à le 12 novembre ici, qu'on a tué déjà 16 gens de Katala. Le dernier 5, ça a été à Nyonga et les autres dans le groupement Upemba. Et nous connaissons tous leurs noms et tout. Et cette maïmaï qui s'est dispersée, même ils sont à Luena, Bukama, à King Kong, à Kipamba et partout.
Mbujimaï, les femmes des militaires qui doivent rejoindre leurs époux à Bukavu sont encore loin de se réjouir. Longtemps restées à l'aéroport, ces épouses des militaires de la 3e brigade intégrée ont été acheminées hier à Mweneditu. Elles doivent encore passer par le Katanga avant d'atteindre leur destination finale Bukavu. Un voyage qui s'annonce long et très difficile. Certaines ONG humanitaires et des droits de l'homme de la province dénoncent déjà ce qu'elles qualifient de chemin de la croix pour ces voyageurs. Explication, Julien Nyamouini.
Au total, plus de 800 personnes, dont 317 femmes et 500 enfants, ont quitté Mbujimaï à bord de véhicules mis à disposition par la MIBA, la minière de Bakwanga. Direction Mweneditu, située à 140 km au sud de Mbujimaï, où elles devraient être embarquées par train vers Bukavu pour rejoindre les époux. 1500 km à parcourir en pleine saison de pluie sur deux routes difficiles et insécurisées via Mbujimaï, Mweneditu, Kamina, Nyemba, Kalemi, Uvira. Le voyage durera deux mois minimum selon le commandant de la brigade, le colonel Panja. Une décision très critiquée par les organisations des droits de l'homme et humanitaires de la région qui dénoncent les conditions de voyage difficiles. Manque de structures d'accueil, manque d'assistance médicale et sanitaire. Les organismes de l'ONU appellent, je cite, le partenaire humanitaire œuvrant sur ce parcours à s'impliquer massivement pour éviter les pires et sauver ces vies humaines. Fin des citations. Une mission mixte ONU-ONG internationale sera rendra ce samedi à Mouenéditou pour suivre le transfert. Cette décision de transfert intervient au lendemain de l'arrivée du lieutenant général Philemon Kissimpia, chef d'état-major général de FRDC en Mbujimayi. Julien Nyamouni Mwanachango, Mbujimayi, Radio Okapi.
364 âmes de guerre et plus de 200 tenues militaires récupérées auprès des civils dans le territoire de Rutshuru. Bilan fait par les autorités militaires de la 5e brigade intégrée deux mois après leur déploiement dans ce territoire de la province du Nord Kivu. Cette brigade est cependant butée à de sérieuses difficultés d'ordre logistique, difficultés qui risquent de compromettre le succès qu'elle connaît dans les opérations de désarmement des civils. Des explications avec Jean-Paul Bassila.
La plupart de ces armes ont été récupérées auprès des chefs des groupements et des localités. Une opération saluée par la population locale qui a apporté sa forte collaboration en dénonçant auprès des militaires des endroits où certains civils cachaient des armes. Cependant, cette collaboration vient d'effrôler les divorces. Violences, extorsions, pillages des maisons et arrestations arbitraires ont accompagné la dernière perquisition des maisons survenues la semaine dernière à Rutshuru Centre. Écoutons les témoignages des 7 victimes. Ma sœur était à la maison, son mari est gardien de parc. On lui a exigé de rendre les armes, il n'y en avait pas. À mon arrivée sur les lieux, je leur ai fait savoir qu'il y avait des insignes de lycéens et non ceux de fac. Ils m'ont répondu que je n'avais rien à leur apprendre. Ils ont commencé à nous frapper, moi et mon ami. Ces derniers ont réussi à s'échapper, voulant les tuer après avoir chargé leurs armes. Ils se sont déchargés par la suite sur moi jusqu'à ce que j'ai saigné. En voulant fuir moi aussi, ils ont tiré en l'air après avoir pris avec eux des tenues des gardiens et des téléphones portables. Les autorités militaires de la 5e brigade intégrée ont déclaré avoir mis à la disposition de l'auditorat militaire ces soldats présumés auteurs d'actes de barbarie contre le civil. Ces autorités déplorent cependant d'énormes difficultés d'ordre logistique que connaît leur brigade, entre autres l'insuffisance des ratios alimentaires et l'irrégularité dans le PMA des primes. Selon elles, ces questions risquent d'affecter la discipline dans les rangs de leurs soldats. De Goma, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
19h11 dans le sud Kivu, plus de 500 femmes ont occupé aujourd'hui l'artère principale de Bukavu. C'était une marche pacifique organisée par des associations et mouvements féminins du sud Kivu. Ceci à l'occasion du lancement de la campagne internationale et nationale de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Les femmes du sud Kivu ont voulu exprimer leur mécontentement à ce sujet. L'occasion aussi pour ces associations de lancer la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. On écoute une des femmes au micro de Charlotte Ngungi.
Le principe du 25 novembre, c'est la célébration de la journée contre les violences sexuelles. Et alors, nous dénonçons les violences sexuelles faites à la femme et à la jeune fille dans la province du Sud Kivu et en République démocratique du Congo en général. Nous faisons un plaidoyer et nous allons faire notre mot. Nous venons devant l'autorité provinciale, c'est pour que lui aussi aura à parler et donc nous attendons de lui une mesure qui, en principe, doit agir contre les violences sexuelles.
Les femmes de Mbandaka se mobilisent aussi contre les violences sexuelles à l'Équateur. Elles ont démarré aujourd'hui des activités de plaidoyer et de mobilisation sociale contre ce mal. Plus de 300 personnes, dont des autorités, des humanitaires et des activistes de droits de l'homme, ont pris part au carnaval et aux festivités organisées pour la circonstance. Régine Beaucoup nous en dit plus dans ce reportage.
En moyenne, 100 femmes sont violées chaque mois dans la province de l'Équateur. Les auteurs de ces actes sont pour la plupart les hommes en uniforme. Mais ces crimes sont souvent banalisé. Profitant de cette journée internationale, les associations ONG, notabilités et la société civile se sont mobilisées comme un seul homme pour demander aux autorités de soutenir l'application de toutes lois ou décisions prises en faveur de la lutte contre la violence sexuelle. Selon Mme Charlotte Mbumba Ilambo, coordonnatrice de l'initiative conjointe dans la province de l'Équateur, le phénomène devient récurrent suite à l'impunité due à la faiblesse du système judiciaire ainsi qu'à la forte stigmatisation des victimes. Pendant les 16 jours de la campagne, les activistes du plaidoyer devront atteindre notamment les leaders politiques, administratifs, religieux, militaires en vue de leur implication dans la lutte. Toutefois, la réussite de cette lutte exige l'implication de toutes les couches sociales, telles que stipule le message de Touraya Ahmed Abed, directrice exécutive de l'UNFPA, lue par Madame Mariette Kavalami, chef d'antenne de l'UNFPA Équateur. Mbandaka, Régine Boukou Manzango, Radio Okapi.
Et puis cette nouvelle triste, avant de boucler la page nationale, vous n'entendrez plus la voix de Georgette Odia, notre brave reporter de la radio Okapi Goma, rendu l'âme ce vendredi matin au centre médical de Kinshasa. Notre consoeur et amie a été transférée en Afrique du Sud au mois de juin pour des soins appropriés. 3 mois après, elle a regagné le pays pour continuer les mêmes soins jusqu'à sa mort. Mariée, Georgette Odia laisse une orpheline de 15 ans. Georgette Odia, il faut le dire, laisse sa famille, ses collègues et tous les responsables de la radio Okapi, information publique et de la MONUC dans les mois. Que l'âme de notre chère Georgette repose en paix. Page internationale, au Sénégal, la chambre d'accusation de la cour d'appel s'est déclarée vendredi incompétente pour juger de l'extradition vers la Belgique de l'ex-président tchadien Hissène Habré, réclamé par la justice belge pour violation massive de droits de l'homme lors de son passage au pouvoir. La déclaration de la cour d'appel a été saluée par des cris de joie et des applaudissements des personnes présentes dans la salle hostile à l'extradition de M. Habré.